de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème!
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial!
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour, Cinérama, c'est une demi-heure pour parler de films, puis aussi pour jouer. Et aujourd'hui, nous allons jouer avec des films qui parlent du pape ou du Vatican, oui, puisque nous surfons sur l'actualité tragique. Bonjour à toute l'équipe. Alors aujourd'hui, toi, deux films, Guillaume.
Oui, alors un pas trop en odeur de sainteté, vu qu'il s'appelle Sinners. Et ensuite, Le Clan des Bêtes, qui n'est pas moins violent, on va dire.
Et puis toi, Sophia, c'est l'histoire d'une activiste qui a plutôt lutté dans les églises.
Exactement. Un film peu orthodoxe, Oksana. Donc un film sur la fémène Oksana.
Et puis moi, je vous parlerai aussi d'une comédie qui est un peu attendue. C'est L'amour, c'est surcoté. Mais nous allons commencer cette émission par La chambre de Mariana, un petit garçon juif caché dans le placard d'un bordel en Ukraine. C'est le dernier film d'Emmanuel Finkiel.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux?
Cinérama.
Eh oui, on est comme on est.
Après déjà deux films consacrés à la Seconde Guerre mondiale ou ses conséquences, Voyage en 99 et La douleur en 2017, Emmanuel Finkiel poursuit sur le sujet avec un style qui lui est propre, une sorte de beauté un peu sévère ou d'âpreté lumineuse, avec Dans la chambre de Mariana. Nous sommes en 1942 à Tchernovitz, en Ukraine. Le film commence par des formes que l'on devine sortant des égouts. C'est Hugo et sa mère. Celle-ci veut mettre son enfant en sécurité. Et pour cela, elle le confie à son amie Mariana, une prostituée qui travaille et vit dans le bordel de la ville. Et c'est à partir de ce moment-là que commence le récit de Hugo qui va passer le plus clair de son temps dans un cagibi attenant à la chambre de la prostituée. C'est pas la même place que Harry Potter. Cette place, eh bien, qu'il a trouvée est celle de son salut, tandis que son père a déjà été emmené par les nazis dans les camps et qu'il ne sait pas ce qu'est devenue sa mère. La mise en scène déployée par Emmanuel Finkiel pour nous faire vivre cette sorte de captivité s'appuie sur plusieurs éléments. Alors, il y a d'abord les sons, ça c'est le premier moment, l'enfant est plongé dans le noir et s'imprègne du lieu. Puis il y a le regard, ce que peut voir Hugo de son cagibi grâce à des fentes qui lui donnent une vue sur la chambre de sa protectrice et puis aussi sur l'extérieur, une vue fragmentaire mais qui suffit au jeune garçon de 12 ans à se figurer le monde. Et puis il y a l'imaginaire. Dans son cagibi, Hugo s'évade en donnant des images à ses désirs. On est très surpris quand très rapidement une séquence nous montre sa mère qui revient le voir, s'excuse et dit qu'ils vont fuir ailleurs. Alors il n'en est évidemment rien. Prenant la place du narrateur, Hugo revoit une scène avec une de ses copines qui lui dit « Ferme les yeux, tu peux voyager dans le temps, tu peux voir le passé et aussi l'avenir. » C'est entre vision de la réalité, fantasme et scène du passé qu'Hugo ménage sa conscience dans son petit espace où parfois tout s'entremêle. Les râles de la prostituée qui couche avec un soldat allemand sont comparables aux râles de sa mère malade que le garçon revoit dans sa tête. C'est ainsi qu'au-delà du récit d'un jeune juif persécuté, la chambre de Mariana est aussi un récit d'apprentissage. Tous les espaces ont leur importance, le cagibi celui de l'imaginaire tant qu'il le peut, celui de la chambre où Mariana le couve, ceux des sentiments, celui de la bienveillance, de l'amour, mais aussi des excès, car Mariana boit beaucoup. Et puis il y a ce qu'il voit de la fenêtre de la chambre, et de ce point de vue, il y a l'horreur nazie avec ses rafles, ses départs en camion, pour on ne sait où, même si le garçon, à la faveur d'une fugue un soir, pourra voir eh bien, la funeste destination. Si la chambre de Mariana n'a pas grand-chose à nous apprendre sur l'horreur du régime nazi qui pouvait s'exécuter dans une petite ville à quelques kilomètres du front de l'Est, Finkiel choisit, comme le roman sur lequel il s'appuie, celui de l'Israélien Aaron Appelfield, d'accentuer le regard sur les rapports que le garçon entretient avec cette Mariana qui prend des risques pour sauver le garçon. Il y a chez elle autant de joie que de désespoir, plus de spontanéité que de calcul, plus d'alcool que d'eau dans son verre. Entre ces deux êtres va se tisser une relation que les circonstances vont tordre. Mariana ne sera pas seulement seulement une seconde mère, mais peut-être aussi une amoureuse. Des images scrutées entre les interstices de son cagibi montrent le garçon observer attentivement comment la prostituée s'habille. Le garçon va finir par se montrer jaloux de ses clients. Dur apprentissage de la convoitise. Derrière son âpreté apparente, La chambre de Marianna est un film vraiment précieux qui fait apparaître un monde pour ceux qui ont dû sans cesse se cacher pour fuir l'horreur nazie et garder la vie en eux. La prestation de Mélanie Thierry est vraiment remarquable. La comédienne qui interprète la prostituée paumée a appris l'ukrainien pour le rôle. Elle joue tout dans la langue et elle parle même aussi un peu allemand. Et par ailleurs, le tournage n'a pas pu avoir lieu en Ukraine en raison de la guerre qui a éclaté peu avant le début du tournage. C'était en février 2022. Autant vous dire que je vous recommande ce film, La chambre de Marianna, dernier film d'Emmanuel Finkiel, en salle depuis le 23 avril. Deux frères jumeaux reviennent dans leur ville natale pour repartir à zéro, mais ils sont attendus par une force maléfique, Sinners.
Bah oui, c'est le film est bien.
This is Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
On est parti longtemps. Maintenant, on est de retour.
Vous êtes jumeaux, les gars ? Non, on est cousins.
On peut être facilement circonspect hein, quand on se dit qu'on va voir ce qui semble être un croisement entre Mississippi Burning d'Alan Parker et Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, le premier pour son exploitation de la violence et de l'implantation du Ku Klux Klan dans le sud des États-Unis, et le second pour sa structure bien spécifique qui voit le genre du film changer dans sa deuxième partie, le polar laissant place au huis clos vampirique grand guignolesque. Alors on l'est d'autant plus que Ryan Coogler a signé le pas terrible Fruitvale Station, les deux abominables Black Panther pour Marvel, et l'ultra mitigé Creed, hein, relecture de Rocky, toujours avec Stallone, mais en mettant la lumière sur Adonis Creed, fils de son défunt rival. Ben on avait tort, car ben, s'il retrouve une nouvelle fois son acteur fétiche Michael B. Jordan, qui peine toujours autant à attirer une réelle sympathie, ben, tout semblait le mener à Sinners.
Les légendes racontent que certains ont le don de jouer une musique qui vient des tripes. Et qu'un tel talent peut convoquer les esprits du passé.
Will somebody take me in your eyes?
Mais ce talent peut aussi déchirer le voile qui sépare la vie de la mort.
Nous sommes dans les années 30. Hein. Deux frères jumeaux, Smokes et Stack, reviennent de Chicago pour implanter un club de blues dans leur Mississippi natal. Alors s'ils ont fait de bonnes affaires dans la ville d'Al Capone après avoir connu les horreurs de la Première Guerre mondiale, ils préfèrent subir leurs conditions de noirs dans une Amérique encore divisée sur le sujet de l'intégration chez eux. Bah, grand mal leur en fait car le soir de l'inauguration de ce fameux club, hein, c'est d'abord festif, mais ça va se transformer en nuit de cauchemar car des vampires vont s'inviter à la fête. Alors projet à la fois classique et dans sa structure est totalement original dans son approche dans le paysage audiovisuel de 2025, Sinners voit la réunion du meilleur de ce que Coogler avait déjà fait auparavant avec Michael B. Jordan, une unité de temps limitée comme dans Fruitvale Station, l'émancipation et la rédemption d'un personnage comme dans Creed et la mise en avant de la culture afro-américaine. Alors le vrai terreau du film et son idée de génie, bah, c'est de mettre le blues et ses légendes au premier plan. Le personnage joué par Miles Caton, hein, Sammy, est bien évidemment une pure réinterprétation de Robert Johnson, le mythique bluesman qui aurait selon la légende vendu son âme au diable pour connaître le succès et jouer la musique la plus envoûtante qui soit et qui est accessoirement ben, le tout premier membre du célèbre club des 27 dans l'histoire de la musique. La musique, hein, donc colonne vertébrale du film, offre ben, le plus beau et envoûtant plein séquence vu depuis longtemps, hein, qui est situé pile au milieu du métrage, hein, faisant un parallèle surnaturel magnifique entre toutes les musiques d'inspiration noire du passé jusqu'à nos jours. La dernière fois hein, que le blues avait été filmé de manière aussi ensorcelante, bah, c'est en 2007, hein, dans le petit chef-d'œuvre Black Snake Moan de Craig Brewer, et sa scène d'exorcisme musical bouleversante, libérant les âmes en peine grâce à la puissance de la guitare, y ressemble beaucoup.
Si tu pactises avec le diable, un jour tu le retrouveras devant chez toi.
On a un problème là.
Qu'est-ce qui se passe, bordel ?
On a entendu parler d'une petite fête. Ce monde vous a déjà laissé pour mort. Avec moi, vous pourriez échapper à votre sort.
On n'a pas besoin d'être sauvés.
Oh que si. Et vous êtes ?
Je suis votre porte de sortie.
Alors la force de Sinners est de ne jamais sacrifier le genre du fantastique au profit de prétentions autorisantes et militantes et utilise au mieux ses codes hein, comme métaphore fédératrice et universelle. Les vampires du Sud hein, sont aussi bestiaux que ceux du bien nommé vampire de John Carpenter. Le vampirisme symbolise bien sûr le Ku Klux Klan mais aussi tout ce qui pervertit et gangrène les gens enrobant toutes les confessions et les couleurs de peau. La sexualité du mythe fondamentale s'invite de façon explicite et donne une chaleur organique fabuleuse au personnage même si on pourrait reprocher paradoxalement le fait que l'explicite n'est jamais vraiment graphique, malgré son côté, dans tous les sens du terme, jouissif. Alors le film de Ryan Coogler n'est pas parfait, mais fait un bien fou car il transpire l'amour de ce qu'il raconte. Il incarne avec une honnêteté et une intensité narrative, franchement bien trop rare dans le 7e art aujourd'hui. Sinners lui permet, moi je pense, enfin faire un grand film de cinéma, en plus d'être l'une des propositions les plus enthousiasmantes et de très loin de l'année. Laissez-vous séduire par le diable, il vous le rendra bien, car n'oubliez pas la phrase clé d'ouverture, à force de danser avec le diable, un beau jour, il viendra te chercher chez toi.
Ce film est à voir en salle déjà depuis le 16 avril, tout comme Oksana, dont nous allons parler avant de retrouver le blind test spécial Pape. C'est un portrait d'une militante féminine.
Dans mon métier, on demande parfois aux gens des choses bizarres.
Mais enfin, qui êtes-vous ?
Cinérama. Cinérama.
Charlène Favier avait marqué les esprits en 2021 avec Slalom, un premier long métrage tendu et viscéral sur l'emprise dans le sport alpin de haut niveau. Elle revient à présent avec Oksana, un film tout aussi habité, mais plus ample, plus fragmenté, plus stylisé aussi. Le portrait, une sorte de biopic librement inspiré d'une figure réelle, Oksana Shashko, militante ukrainienne, artiste, femme aux multiples visages et surtout cofondatrice du mouvement Femen. Un mouvement emblématique du féminisme, toujours actif en France et dans le monde, dont on voit encore régulièrement les actions coup de poing, comme lors du 8 mars dernier à Paris, où des militantes à demi nues, le torse barré de slogans, ont surgi dans la manifestation pour les droits des femmes. Avec Oksana, Charlène Favier peint un portrait de lumière, couleur colère, sur une toile tendue où les icônes sont renversées.
Сексуальний об'єкт перетворюється на об'єкт, який протестує.
Наша місія – бунт! Наш Бог – женщина! Ми…
Nous sommes à Paris en 2018. Oksana, interprétée par la remarquable actrice ukrainienne, pas comme Mélanie Laurent dans le film dont tu parlais, Vincent, donc Albina Kortz, y prépare une exposition personnelle dans une galerie. Bon, une journée d'apparence banale, mais dont on pressent le point de bascule qui approche. Ce présent, tendu comme un fil, s'entrelace à un passé brûlant, celui de la création de Femen, de ses premières actions radicales en Ukraine, de sa montée en puissance jusqu'à défier les régimes autoritaires biélorusses et russe. Le tout tissé à travers le prisme de sa cofondatrice, donc Oksana Shashko, élevée dans la tradition orthodoxe, dans un pays désabusé par le communisme. Le récit avance par ellipses et réminiscences, les voyages en train, la première action contre Loukachenko, la peur, la sororité et la confrontation avec l'appareil répressif, jusqu'à l'arrestation et la disparition temporaire d'Oksana et de ses camarades, épisode qui faisait déjà frissonner dans le documentaire « Je suis Femen » d'Alain Margot, présenté et primé à Nyon au festival documentaire « Vision du réel » en 2014.
Vous êtes arrivée en France quand ?
En 2013.
Pour quelle raison avez-vous quitté votre pays ?
On était en danger là-bas.
C'est-à-dire ?
Si le premier long métrage de la cinéaste Slalom misait déjà sur une forme de réalisme brut autour d'une figure féminine centrale, Oksana explore une veine plus picturale, presque mystique. Le film s'ouvre et se referme comme un rituel païen. Des femmes à moitié nues dansent près d'un feu au bord d'une rivière, dans une nuit ukrainienne où l'on ne doit pas dormir. Des images presque enlevées à un certain Ari Aster en plein solstice d'été, où les têtes de femmes sont ornées de couronnes de fleurs. Le corps devient à la fois médium, manifeste et territoire de lutte, et c'est d'ailleurs ce que tente de narrer tout le film, comment Oksana, des icônes religieuses qu'elle peint avec beaucoup de talent, devient elle-même une icône subversive et non moins talentueuse. Elle peignait alors des saints, S-A-I-N-T-S, puis des saints, S-E-I-N-S, se transformant elle-même en sainte profane, en figure sacrificielle.
Je suis réfugiée politique, artiste, activiste, extrémiste. Je donnais ma vie à Femen.
On sent chez Charlène Favier le désir de rendre hommage à ce parcours incandescent, de faire d'Oksana un tableau vivant. Elle le dit elle-même, j'ai essayé d'en faire une icône. Ce qui donne au film des images fortes, souvent belles, parfois troublantes, et une mise en scène travaillée où le silence compte autant que les mots. Mais c'est peut-être là aussi que le bât blesse entre ce désir d'icône et le risque d'enfermer le personnage dans un mutisme mystique. Oksana devient parfois une muse mélancolique, presque muette, qu'on contemple plus qu'on écoute. Un paradoxe hein, pour un film qui cherche justement à redonner chair et voix à une militante investie d'une mission. Bon, et pourtant, derrière ce silence réside tout ce que le film ne dit qu'en creux, les blessures profondes d'un militantisme à vif, face à un totalitarisme écrasant, face au patriarcat, contre la prostitution, contre la religion aussi, les tensions internes au mouvement, notamment avec Ina Shevchenko, hein, devenue le visage médiatique de Femen en France, hein, c'est la blonde qu'on voyait partout sur les plateaux télé. La cinéaste rend hommage à une femme forte face à l'adversité, mais aussi à sa souffrance, hein, car la véritable Oksana Shashko s'est suicidée en 2018. Le présent du récit du film est le dernier jour de sa vie. Et c'est ce qui rend le film encore plus bouleversant. Hein. Il réaffirme, comme le documentaire Je suis Femen en 2014, qu'au cœur de l'imagerie Femen, les slogans, les corps peints, la puissance de la grammaire visuelle, de l'iconographie Femen, il y avait Oksana, la tête pensante du mouvement, tout aussi créative que meurtrie. Il en résulte un film habité, parfois déséquilibré, mais nécessaire, où l'intime rejoint le politique et grâce auquel Charlène Favier poursuit son sillon de cinéaste engagé, à la fois sensoriel et lucide.
Oksana est en salle depuis le 16 avril. On passe tout de suite au blind test consacré au pape et au Vatican dans le cinéma.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
Cinérama.
Votre identification vocale est terminée, vous êtes en règle.
Merci.
Alors, le principe, nous écoutons 5 extraits, il faut trouver les titres des films. Premier extrait.
J'aimerais vous présenter un nouveau membre de notre ordre, dont l'existence nous était totalement inconnue jusqu'à il y a à peine quelques heures. Et cela parce que notre frère a été nommé cardinal grâce à une procédure tout à fait légale connue sous le nom de création in pectore. La raison pour laquelle cela a été fait de cette façon n'est connue que de Dieu et de notre regretté Saint-Père. Mais je crois qu'il nous est très facile de la deviner car notre nouveau frère officie dans une région des plus dangereuses. Bienvenue dans notre ordre, Vincent Benitez, cardinal archevêque de Kaboul.
Alors, ça sèche ici dans les studios. Je ne sais pas si vous avez vu le film. C'est un film qui a fait 1,1 million d'entrées en France. C'était l'an dernier, en 2024.
C'était Conclave ?
Oui. Alors, c'est mieux quand tu le dis dans le micro, mais c'est effectivement Conclave de Edouard Berger, j'imagine, avec Ralph Fiennes. Un secret doit être découvert avant que le nouveau pape soit élu. Deuxième extrait de ce blind test consacré au pape et au Vatican.
Ah, le latin est pratique, surtout quand je dois annoncer une mauvaise nouvelle aux cardinaux. Seulement 20% d'entre eux se mettent en colère. Ils sont donc 20% à comprendre ce que je dis. Je suis navré de vous avoir fait attendre. Je sais combien vous appréciez la ponctualité. Paolo, mon dernier assistant, ne m'aurait jamais laissé arriver en retard. Il était parfait, vous voyez.
Maintenant, il est en prison.
Oui.
Oui. Peut-être préférez-vous que nous marchions ?
Je ne crois pas que ce soit raisonnable. Hein ? Votre lacet est défait. Oh. Eh oui, ça arrive.
Alors, ça sèche encore pour ce film qui est de 2019. C'est un film qui est passé directement sur la plateforme Netflix, parce que c'est lui qui l'a produit. Le pape Benoît XVI tisse une amitié improbable avec le futur pape François, qui nous a quittés, donc à un moment clé pour l'Église catholique.
C'est un film, du coup, vraiment d'actualité.
Et on entendait Anthony Hopkins. Ouais. C'est Les deux papes, film de Fernando Méreyès. Troisième extrait de ce blind test consacré donc au pape et au Vatican.
Je suis le père d'Edgardo Mortara.
Oui, je vous ai déjà donné un délai de 24 heures. Veuillez vous en contenter.
Je suis sûr qu'il y a encore quelque chose à faire.
Non. Un baptême ne peut en aucun cas être annulé. Votre fils est chrétien pour l'éternité.
Non ! Mais quand ?
Dès ce soir.
Ce n'était pas ma question. Quand a eu lieu ce baptême ? Et qui l'a baptisé sans qu'on s'en aperçoive?
Non, ça, je ne peux pas vous le dire, parce que c'est un acte confidentiel. Mais je vous assure que ça a bien eu lieu.
Je crois au contraire qu'il s'agit d'un malentendu. Si vous nous accordez encore un peu de temps, on pourra tirer ça au clair.
Non, c'est impossible.
Vous allez l'emmener?
Oui. À cet égard, je vous demanderai de convaincre votre épouse de n'opposer aucune résistance, entre autres pour ne pas heurter vos autres enfants. De toute façon, il vous sera permis de le voir autant que vous voudrez.
Alors, ça sèche encore, décidément.
Je crois que c'est...
Oui, tu l'as, je pense.
On l'avait chroniqué en plus,
oui, bien
il y a
sûr.
Pas longtemps. C'est l'enlèvement, c'est ça ?
Oui, de Marco Bellocchio, film de 2023. Un enfant juif qui a été baptisé par une bonne superstitieuse à l'insu de ses parents et récupéré par l'église. 251 000 entrées en France pour ce film. Allez, un nouvel extrait.
Le conclave vient de procéder à l'élection du Saint-Père.
qui, maintenant en pleine conscience de la grande responsabilité qui lui échoit, a ressenti le besoin de se retirer un instant en prière. Ce geste inhabituel est aussi un acte d'humilité que nous en sommes certains. Vous allez savoir respecter. Je vous en prie.
Je pense être l'interprète fidèle des sentiments que tous les collègues du monde éprouvent. Nous respectons la volonté de sa sainteté, mais nous vous demandons de nous dire seulement qui c'est. Rien de plus.
Dites-nous seulement si c'est un de ces huit-là. Aguilar ? Grégory ? Bekila ?
Nous pensons, bien sûr, que dans un bref délai qui ne pourra pas dépasser quelques heures, le pontife va décider de se montrer pour se présenter à ses fidèles. À ce moment, vous le connaîtrez, vous aussi, et alors tous ensemble, nous fêterons le beau début du nouveau pontificat. Merci et bonne journée.
Alors là, cette fois-ci, ça a été trouvé.
C'est Habemus Papam de Nanni Moretti.
Oui, film de 2011, tout juste élu un pape est en proie au doute. Il décide alors de suivre une psychothérapie afin de lutter contre son profond malaise. 744 000 entrées en France. Et dernier extrait de ce blind test.
Dieu n'est sourd à aucune prière, mais il peut lui arriver de répondre non. Le collège n'interrompra pas le conclave. Permettez-moi une suggestion. Consacrez toute votre énergie à épauler la garde suisse dans sa quête de ce dispositif explosif, s'il existe bien. Et laissez la direction de l'Église à ses dirigeants.
C'est ce qu'on appelle remettre quelqu'un à sa place. Non, c'est pas Amen. Film américain qui a réuni 2 millions de spectateurs en France. Le réalisateur, c'est Ron Howard.
Da Vinci Code.
Alors, c'est le suivant. Voilà,
Ange et démons.
Les Illuminati qui veulent anéantir l'Église catholique sont sur le point d'y parvenir. Mais heureusement, Robert Langdon, expert en religion d'Harvard, veille au grain. Voilà, ainsi s'achève ce blind test consacré donc au pape et au Vatican dans le cinéma. Il n'y a pas tant de films que ça. Ce sont des films qui marchent plutôt bien en salle. Ça, il faut le noter. Un nul avec les meufs est aidé par une chouette meuf. C'est l'amour, c'est surcoté.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité cinéma. Et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
Tu sortirais avec un mec qui me ressemble, genre un peu à la même tête ? Non ? Bah, moi non plus.
Laura Felpin fait partie des actrices humoristes bankable. On l'a vu dans la saison 2 de la série Bref, dans le Banger sur Netflix et maintenant dans L'amour, c'est surcoté. Il s'agit d'une comédie de Murad Winter adaptée de son propre roman. Alors un romancier fait-il un bon cinéaste ? De ce côté-là, il n'y a rien à voir dans la mise en scène de ce film qui oscille entre un film de potes et comédie romantique avec cette difficulté à quel moment le couple que l'on voit eh bien va ken, hein, puisque c'est la formule qui est sans cesse employée. On a Anis, joué par Hakim Jemili, un type issu de la banlieue qui visiblement a une vie sentimentale compliquée car il refuse de s'engager. L'exemple inverse est donné par son ami d'enfance qu'il a enterré il y a 3 ans après un suicide réussi. Les termes sont ainsi posés. Mais voilà que ce gentil loser, à l'occasion d'une soirée ratée, tombe sur Madeleine, Laura Felpin, et c'est une bonne pioche car la jeune femme décomplexée va l'aider à se débloquer émotionnellement.
Ça faisait pile 3 ans que j'avais perdu mon meilleur pote. J'avais un truc à me prouver.
Les seules fois où t'as concrétisé, c'était des plans à Isma.
C'est bon, je suis discret, c'est tout.
Enchantée, je m'appelle Madeleine.
Moi, c'est les pancakes.
Très marrant, ça.
Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit ? Il s'est encore inventé une nana, lui.
Mais t'inquiète, arrange pas, on va ken.
Quoi ? Toi, je te préviens, pas de bonne raciste.
T'as cru que j'étais un animal ou quoi ?
T'es un animal,
ouais,
frère.
Ouais, t'es un animal.
J'en connais un qui va encore envahir un nouveau pays. Mon zob.
Et oui, voilà, c'est l'humour. Il y a 2 temps hein, dans le récit, celui des événements qui se produisent et puis celui d'Anis qui est en consultation avec une psychologue pour montrer que tout est issu du point de vue d'Anis. Le comédien fait des apartés en regardant la caméra. C'est absolument inutile et agaçant. Au-delà de ça, bien que le film repose sur son duo d'acteurs, le couple qui tarde à se former, eh bien le second rôle ont aussi leur importance. Il y a un des potes qui est ouvertement raciste mais que l'amour va changer, alors pourquoi pas ? Il n'empêche qu'il n'est jamais vraiment crédible.
Tu sais, moi j'aime bien les femmes indépendantes, libres.
Putain, mais t'es sérieux là, Guy Georges ?
Quoi ?
De garder les yeux ouverts pour m'embrasser ?
On les a ouverts en même temps.
J'ai dit à mon père que je venais avec mon mec. C'est le garçon dont je vous ai tant parlé, papa.
Que sa présence est vraiment requise ici ? C'est pas un camp de migrants ? Pardon ?
Ah,
c'est une blague.
Mais bim !
Vous pensez que je suis amoureux ?
Mais vous savez, c'est pas une insulte, d'être amoureux.
Je te jure, je me sens bizarre de vous.
Profites-en, frère.
Et encore une fois, hein, dans une comédie française, donc on ne peut pas s'empêcher de mettre en avant des personnages donc là racistes et antisémites, un autre vaguement transphobe, et puis qu'il aurait aussi pu être homophobe. D'ailleurs, l'homosexualité est une insulte hein, pour les personnages masculins. Il n'empêche, le film repose sur un bon rythme et des dialogues qui font mouche. Ça, c'est la grande qualité du film. Une fois qu'on admet la place de chaque personnage et qu'on se laisse aller au dénouement des enjeux du film, qui sont le refus d'accepter ses sentiments et la question du deuil. Et si c'est la fille qui fait changer le regard de l'homme, l'ensemble du film est quand même construit autour du male gaze. Enfin, voilà, c'est un peu la problématique. Mais ça se laisse regarder. Nous parlions de L'amour, c'est surcoté en salle depuis le 23 avril. Nous terminons cette émission avec un berger irlandais qui est entraîné dans un conflit violent avec une ferme voisine lorsque ses moutons sont attaqués par des inconnus, le clan des bêtes.
J'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Cinérama.
C'est votre dernier mot ?
Le clan des bêtes ou Bring Them Down en version originale. Mais savez-vous pourquoi ce titre en français ? Eh bien, parce que le distributeur a compris la proximité du film avec un autre film ultra primé et a joué avec la correspondance de certaines de ses thématiques ben pour s'attirer le chaland. Hein. Car oui, le résumé du film nous fait penser, bien évidemment, alors en partie, hein, au brillant Asbestas du prodige Rodrigo Sorogoyen, l'un des plus intéressants réalisateurs de ces 15 dernières années. Alors, pas de pont entre la France et l'Espagne ici, mais une guerre entre deux familles irlandaises. Ce drame hein, conflictuel entre deux éleveurs de moutons hein, voisins met en scène donc Michael O'Shea, qui vit avec son père handicapé et amer, Ray. Mais avant le générique, hein, on apprend que 20 ans plus tôt, Michael a conduit sa voiture de manière imprudente dans un accident qui a tué sa mère, qui venait d'annoncer à Michael bah, qu'elle quittait son père. Et il a par la même occasion bah, grièvement blessé sa petite amie Caroline. Alors Caroline, elle a tiré un trait, mais elle a finalement épousé le fermier voisin, Gary. Et ils ont eu un fils, aujourd'hui adolescent. Les hommes hein, des deux familles ne peuvent pour ainsi dire pas se voir, ont distillé leur haine du voisin dans leur descendance et le point de non-retour est franchi à que l'un des deux clans va s'en prendre à ses bêtes. Alors une terre reculée, deux familles en guerre, non, ce n'est pas tout à fait un western retraçant. La baston entre les Hatfield et les McCoys, c'est encore plus triste.
Hey, what's this?
Dad.
These are the two animals you told me were dead.
Alors, Bring Them Down hein, a un double sens, faire descendre les moutons des collines en hiver et descendre ben, le méchant voisin. Les animaux, hein, mais aussi les humains, subissent des morts hein, et des blessures terribles dans une partie du monde et dans un métier où l'on pourrait même se demander comment il est concevable d'être aussi cruel alors que la vie n'est déjà vraiment pas facile. Alors dans la seconde moitié du film, certains événements déjà observés sont revisités et nous permettent de mieux comprendre ben, la réalité atroce dans laquelle baignent tous ces personnages et de comprendre pourquoi certaines réactions sont aussi extrêmes. Alors le caractère non linéaire de l'histoire exige une attention soutenue tout le long du récit, mais il est enrichissant hein, car d'une histoire assez simple, le réalisateur arrive à dégager un drame familial alors, à tiroir, hein, qui est une forme très à propos, parce que le véritable intérêt du film, c'est cette exploration de la violence et de montrer comment elle souille les gens d'une même famille d'une génération à l'autre. Ce qui est demandé hein, de manière figurée par un père va par exemple devenir une abominable réalité lorsqu'un fils va littéralement ramener la tête de son ennemi, hein, demandé par un patriarche au plus fort de sa colère. Chronos mangeait ses enfants, la violence aussi. Tous sont comme des bêtes, hein, alors que ces mêmes bêtes que l'on voit dans le film en composent paradoxalement les éléments les plus purs. Alors le clan des bêtes ne va pas vous donner de l'espoir et du sourire, hein, et ne vous étonnera pas trop hein, si vous avez vu le film de Sorogoyen, ou encore les Banshees d'Inisherin que j'avais chroniqué ici lors de sa sortie, mais c'est un bon exemple de thriller campagnard désabusé et jusqu'au boutiste hein, mené par une ribambelle d'excellents acteurs dévoués à la triste existence de leur personnage.
Eh bien, ce film, hein, Le Clan des Bêtes, est en salle depuis le 23 avril.
Je vous trouve si nerveux. Quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir. De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine, nous aurons le plaisir de parler du dernier film de David Cronenberg. Et toi, tu auras deux films, Guillaume.
Oui, je vous parlerai de Tu ne mentiras point et Avoc.
Et puis toi, Sophia, tu espères avoir un film roumain.
Oui, j'espère vous parler, Vincent, de ce nouvel an qui n'est jamais arrivé.
À la semaine prochaine.
Si le monde extérieur voyait cette église telle que je la vois, en dépassant le cérémonial de ses murs, il verrait alors un miracle moderne. Une fraternité d'âmes faillibles et simples qui ne demandent pas mieux que d'être des voix de compassion dans un monde qui part à la dérive. Signori, je requiert. Je prie pour que vous interrompiez ce conclave. Ouvrez ces portes. Faites évacuer la place Saint-Pierre et dites la vérité au monde.
This is Cinerama. 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 Cinerama.